Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Serge Abitboul.
Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis au micro pour l'animation de cette émission. Bon, même si la phase de rodage est terminée, selon Jean-Philippe Clément, qui réalise et produit ce podcast, continue à être tolérant. Je ne suis pas un journaliste pro. Aujourd'hui, on va parler de calcul quantique, et plus précisément d'IA avec du calcul quantique. Notre invité est justement un spécialiste du domaine, Jonas Landmann. Il a soutenu une thèse en informatique à l'Université de Paris-Cité et a réalisé des post-docs à l'Université d'Édimbourg, de Paris-Sorbonne et dans l'entreprise QCWare France. Il est maintenant chercheur à INRIA et l'École Normale Supérieure. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans notre vie, d'un point de vue social, culturel, éthique, technique, politique et tout.
Cause commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune.fm et sur son app mobile, sur la bande FM à Paris, sur 93.1 et sur le DAB+, en podcast sur votre plateforme préférée. Chers auditorices, si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous aider en likant et en partageant notre émission. Cela nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes et...
C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Dans ce podcast, on parle d'intelligence artificielle, une nouvelle science qui transforme le monde. Une autre science pointe son nez, qui pourrait aussi bien bousculer nos habitudes, le calcul quantique. Alors, quand des chercheurs comme Jonas Landmann se placent à la frontière entre l'apprentissage automatique et le calcul quantique, nous sommes évidemment passionnés par le sujet. J'ai invité Jonas, qui est chercheur à INRIA, pour nous en parler. Alors, en voiture avec lui. Bonjour Jonas.
Bonjour Serge.
Merci d'être avec nous en studio pour l'émission Parlez-moi d'IA. Peux-tu nous dire rapidement quel est le parcours qui t'a conduit à une thèse en informatique ?
Alors, mon parcours, c'est un parcours assez scientifique, bien entendu, assez chaotique, ce qui m'a permis de m'intéresser à beaucoup de sujets durant mes études, pour finir un peu, bah, comme tu l'as dit, un peu à l'interface entre plusieurs domaines qu'on ne voit pas souvent ensemble, à savoir la physique quantique et le machine learning ou l'IA, comme on dit. Alors, moi, j'ai étudié à l'École Polytechnique, puis à UC Berkeley aux États-Unis. Et c'est là-bas où j'ai découvert ce domaine de l'informatique quantique. J'ai commencé une thèse à l'université Paris-Cité, dans un laboratoire qui s'appelle l'IRIF. Et après, comme tu l'as dit, des post-doctorats et aujourd'hui chercheur à l'INRIA et à l'ENS.
Ben merci. Maintenant qu'on a compris un peu d'où tu viens, on va parler de ta thèse. Alors, mesdames et messieurs, accrochez-vous. Je sais que c'est difficile, mais pourrais-tu nous donner une petite intuition de ce qu'est le calcul quantique ?
Alors, c'est jamais facile. Et si j'arrive à donner une intuition, c'est probablement qu'elle sera un peu trop simpliste et donc potentiellement erronée, mais on va commencer par l'intuition quand même. Alors, l'informatique d'abord, non quantique, c'est, on va dire que c'est la manipulation de l'information. Et bon, une image qu'on a, c'est qu'on sait tous qu'il y a des 0 et des 1 quelque part. Mais qu'est-ce que c'est que ces 0 et ces 1 ? Dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, il y a des 0 et des 1. Il s'avère que c'est des petits objets. Il y a vraiment des milliards et des milliards de petits objets dans nos ordinateurs qui sont ce qu'on appelle des bits et ils sont dans un état 0 ou 1 et c'est en fait comme des petits interrupteurs, des petits objets. Et aujourd'hui, ils sont tellement petits, ils font quelques nanomètres de large, c'est pour ça qu'il y en a des milliards. Et voilà, un ordinateur, ça manipule les états de ces petits interrupteurs, ces 0 et ces 1. Alors maintenant, on se demande qu'est-ce qui se passe si on remplace ces objets-là, qu'on appelle des transistors, les interrupteurs, par autre chose, disons par carrément des atomes qui pourraient être dans deux états, 0 et 1, ou des photons qui pourraient être dans deux états, des électrons, etc. Des choses qui sont tellement petites qu'elles obéissent aux lois de la physique quantique. Alors tout d'un coup, on va se mettre à avoir donc une machine qui manipule des 0 et des 1, mais dont ces objets qui portent l'information, atomes, électrons, etc., vont donc obéir à des lois très bizarres, les lois de la physique quantique. Et en particulier, le fait que les états de ces atomes, électrons et tout, peuvent être dans, On peut être dans plusieurs états à la fois. Ça, c'est un peu un principe de base de la physique quantique. Tandis que le transistor normal qu'il y a dans votre téléphone portable, il est soit allumé, soit éteint, soit donc 1 ou 0. Le photon, lui, il peut être dans les deux à la fois, avec des proportions. Alors là, on peut rentrer dans des discussions un peu épistémologiques ou de la philosophie des sciences, de qu'est-ce que ça veut dire qu'être dans deux états à la fois. Mais pour l'instant, on va juste partir de ce principe. Donc maintenant, au lieu d'avoir un ordinateur qui manipule 0 ou 1, sur plein de transistors, on va avoir un ordinateur qui manipule des choses qui sont un peu dans les deux états à la fois. Donc ça, c'est le fondement de base de ce qu'on appelle l'information quantique ou l'informatique quantique. Et donc aujourd'hui, ou enfin depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, les gens essaient de fabriquer ces machines. C'est extrêmement dur parce que clairement, la nature n'a pas vraiment envie. Quand je dis la nature, j'entends la physique quantique, n'a pas vraiment envie qu'on mette des milliers ou des centaines de milliers de photons ensemble, bien contrôlés, parce qu'en général, plus la taille d'un système, c'est-à-dire le nombre de ces électrons, de ces atomes grandit, plus moins les effets quantiques vont être bien conservés. Il y a un problème un peu naturel qui arrive. On appelle ça la décohérence. Mais c'est ce que donc beaucoup de gens essayent de faire, d'abord dans les universités et maintenant surtout dans les entreprises, parce que c'est des machines qui coûtent apparemment très très cher à faire. Mais moi, je travaille sur autre chose, je travaille sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec de telles machines. Et ça non plus, c'est pas clair.
Avant d'arriver là, c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant, mais avant d'arriver là, est-ce qu'on pourrait un petit peu comprendre un peu mieux ces machines quantiques en supposant qu'on arrive à faire des calculateurs quantiques? C'est quoi le but? Est-ce que c'est de résoudre des problèmes qu'on ne pourrait pas résoudre avec des ordinateurs classiques, ou est-ce que c'est pour aller plus vite? Ça sert à quoi?
C'est la très bonne question. Et effectivement, si ça sert à rien, pourquoi les construire? Au-delà du fait que c'est super intéressant et qu'on pourrait faire de la science intéressante, on va essayer de faire des choses peut-être pratiques pour la science ou des calculs qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, c'est toujours compliqué en informatique de dire qu'est-ce que ça veut dire un calcul qu'on ne peut pas faire. Il y a des calculs qu'on peut faire, mais qui prendraient la durée de l'existence de la planète Terre ou de l'univers. Donc, on va dire qu'on ne peut pas les faire. Mais donc voilà, on aimerait que des algorithmes, des problèmes dont les solutions qu'on connaît aujourd'hui sur nos ordinateurs ou les super calculateurs non quantiques, c'est-à-dire classiques comme on dit chez nous, on aimerait pouvoir les accélérer sur ces ordinateurs ou résoudre des problèmes qui semblent être assez naturels sur un ordinateur quantique, par exemple des problèmes de la physique quantique. Donc c'est ça qui a motivé initialement la création des ordinateurs quantiques, notamment une conférence de Richard Feynman en 1982. Il a dit, on sait que faire des calculs de physique quantique, c'est-à-dire simuler la physique quantique, c'est extrêmement lent sur un ordinateur normal. Pourquoi? Parce qu'il faut se balader dans plein d'états à la fois, je peux y revenir juste après. Si on avait un ordinateur quantique lui-même, a priori, on pourrait résoudre ces problèmes plus rapidement.
Et alors, on en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on sait déjà fabriquer des ordinateurs quantiques? Est-ce qu'on sait fabriquer des ordinateurs quantiques suffisamment puissants pour résoudre de tels problèmes? On en est où?
Alors, donc ça, c'est la partie machine et qu'est-ce qui est fabriqué. Alors oui, les ordinateurs quantiques existent. Il y en a plein dans le monde entier. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai écrit un algorithme qui devait être, c'est-à-dire du code, hein, qui va être envoyé sur un ordinateur quantique et que j'ai reçu le résultat donc, via Internet. C'était un ordinateur qui avait 5, on appelle ça les qubits, pour dire des quantum bits, et donc qui était à base de circuits électroniques supraconducteurs, mais peu importe. J'ai envoyé un algorithme sur un ordinateur quantique à 5 qubits en 2017. Aujourd'hui, il y a des ordinateurs quantiques à plus de 100 qubits, et peut-être beaucoup de gens n'auraient jamais parié là-dessus à l'époque. Donc ça avance, les machines avancent, mais c'est bien trop petit pour faire des choses qui sont, on va dire, les trois critères infaisables par l'ordinateur classique, infaisables au sens trop lent, utiles, je dirais au moins utiles à la science, parce que bien sûr tout le monde veut que ce soit utile commercialement, mais utile à la science ce serait déjà pas mal, mais on n'y est pas. Et le troisième critère, je sais pas ce que c'est, mais disons un truc qui marche bien à tous les coups, quoi. Voilà, reproductible. Donc on en est là. Ça, c'est côté les machines. Maintenant, côté algorithme, qu'est-ce qui existe? On peut quand même prouver que certains problèmes vont être mieux résolus sur ordinateur quantique comparé à un ordinateur classique. On peut le prouver mathématiquement. Ça, c'est un peu mon job et le job de des computer scientists, comme on dit en anglais, ou des informaticiens, ou je sais pas vraiment quel est le mot en français d'ailleurs pour parler des,
il y a pas de mot. Informaticien.
Ouais, c'est pas.
Ou développeur.
Bref. Bon, donc des théoriciens des algorithmes, on va dire.
Avant de passer aux algorithmes, non, une dernière question sur ces machines. Est-ce que c'est idiot de demander si elles pourraient changer quelque chose, par exemple pour la frugalité? Est-ce qu'elles pourraient être plus frugales que des machines classiques?
Alors ça, c'est une très grande question. Alors à la base, moi, ce que j'avais compris, ce qu'on m'avait vendu, c'est que oui, les ordinateurs quantiques, ça allait être beaucoup moins gourmand en énergie parce que on fait les calculs beaucoup plus vite. Donc voilà, de fait, au lieu de faire tourner l'ordinateur pendant, disons, 10 jours ou 2 mois, on va le faire tourner 10 secondes. Donc voilà, on m'avait... Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Finalement, construire ces machines, ça a coûté beaucoup d'énergie, mais ça dépend. Et peut-être je ne l'ai pas assez bien exprimé, mais il y a plein de façons différentes de faire l'ordinateur quantique. J'ai dit, ça peut être des atomes de ci, des atomes de ça, des électrons comme ci, des électrons comme ça, de la lumière. Et il y a en fait, je ne sais pas, presque, au moins je dirais au hasard comme ça, une trentaine ou une quarantaine de possibilités différentes de faire des ordinateurs quantiques aujourd'hui dans le monde. Et elles n'ont pas du tout les mêmes consommations énergétiques. Notamment... ceux qui nécessitent d'avoir une espèce de froid absolu, c'est-à-dire le froid qu'il y a dans le vide, même plus froid que le vide intersidéral, pour que les petits atomes ou les électrons, c'est-à-dire les qubits, soient le plus stables possible. Comme j'ai dit, la nature n'a pas vraiment envie qu'on mette des centaines de milliers de qubits ensemble et qu'ils restent sages, et la température, ça les fait s'exciter. Donc il y a besoin de refroidir, et souvent ça consomme beaucoup d'énergie, c'est comme le frigo le plus froid du monde. Donc ça dépend. Mais plus ça va, plus je trouve que ça ne va pas être si frugal que ça.
Maintenant, quelle est la place de la recherche française et européenne concernant le quantique et l'IA quantique? Quelle est la place aussi des start-up et de l'industrie française? Est-ce que c'est un domaine qui est particulièrement concurrentiel? Et est-ce que le partage des savoirs fonctionne?
Oui, alors c'est un domaine qui a beaucoup d'attraction. Et je l'ai vu là depuis à peu près 6-7 ans que je suis dans ce domaine. Voilà, c'est assez rare de voir des domaines aussi actifs. Donc en France, on est bien loti dans le sens où on a toujours eu une très très bonne école de physique quantique avec des grands chercheurs, des prix Nobel, et donc on était très bien loti. On a aussi une très bonne école en IA et en mathématiques, donc tous les ingrédients sont là. Cependant, petit bémol sur la France, c'est que nos grands chercheurs français, nos grands prix Nobel n'ont jamais vraiment cru dans l'ordinateur quantique. À juste titre, parce que c'est une machine qui est très très dure à faire, mais je pense qu'il y a une position française d'il y a 15 ans, 20 ans, de dire ça sert à rien d'aller vers là. Et là maintenant, tout le monde retourne un petit peu sa veste pour ceux qui sont pas à la retraite, et on a peut-être pris un petit retard, mais qu'on a rattrapé du mieux qu'on pouvait. Alors la France a au sens, l'État français a investi beaucoup d'argent dans la recherche publique, dans les collaborations internationales. L'Europe a beaucoup investi, et aussi dans la création de start-up. Donc il y a un vrai boom qu'il y a eu dans la recherche, dans à la fois l'intérêt qu'ont les gens et le fait qu'il y a des financements pour recruter des thésards, des post-docs et lancer des projets qui coûtent cher. Maintenant, il y a beaucoup de start-up qui se sont montées en France. Bon, beaucoup, il y en a, on va dire, 5. Elles se sont toutes créées vers 2018-2019. Et depuis, il n'y en a pas beaucoup. Alors je parle surtout des start-up qui veulent fabriquer un ordinateur quantique, ce qui est une tâche phénoménale et un peu folle. Il faut vraiment être inconscient pour se lancer là-dedans. Et c'est sublime, du coup, d'oser. Donc, on en a 5. En France, on est très, très, très fiers de ces startups et elles sont effectivement impressionnantes.
Elles sont belles. Hein.
Voilà. Mais il faut imaginer que dans le paysage international, voilà, elles ont leur place, elles sont connues. Aux États-Unis, on connaît ces startups, mais ce n'est pas les leaders pour l'instant. Vraiment, les leaders ont infini argent et ils avancent très, très vite. Je dirais que, voilà, en toute humilité, on n'est pas leader dans ce domaine. Mais on était très bons candidats. Donc il y a beaucoup de compétition. Et pour finir sur la géopolitique, tous les pays ont investi beaucoup d'argent à l'époque où il y avait peut-être un peu plus d'argent, c'est-à-dire juste après le Covid. Mais bon, il y a une sorte de compétition. La recherche reste ouverte, mais on sent que la compétition est un peu rude. On sent que, d'ailleurs, par exemple, dans la recherche, c'est assez dur de recruter les gens. Il faut toujours un peu demander des autorisations au service secret français. Est-ce que j'ai le droit de recruter telle personne, telle personne? Je découvre un petit peu ce monde où on a envie, on sent qu'il est, que c'est stratégique. Voilà, c'est stratégique. J'entends les mots stratégie, j'entends les mots souveraineté. Et quand on entend ça, en général, c'est que on peut se demander pour combien de temps ça va rester très ouvert. Mais moi qui ai principalement travaillé dans la recherche publique, on publiait tout. Et même quand j'ai travaillé un peu dans la recherche privée, on essayait de publier au maximum tout ce qu'on pouvait.
Donc ça reste encore relativement ouvert.
Voilà. Maintenant, disons que ce qui est resté secret, je ne l'ai pas vu.
J'ai une autre question, c'est le fait qu'il y ait plein de directions possibles. Tu as dit à un moment donné qu'il y en avait plein, avec des électrons, avec en optique. Enfin, il y a plein de façons d'attaquer le quantique. Est-ce que ça, c'est pas un handicap? Parce que du coup, on peut pas mettre un investissement massif dans une de ces directions. Il faut les essayer toutes et c'est du coup, on partage les efforts, non?
Bah moi, je pense que c'est une chance, hein, parce que si on avait qu'une seule façon de faire ces qubits et ces ordinateurs quantiques, on aurait pu être très vite déçu. S'il y en a un qui marche pas. Donc oui, mais ça dilue effectivement les investissements. Alors un avantage qu'il y a d'ailleurs, c'est que dans le monde des algorithmes, on fait comme si ça n'avait pas d'importance. On est ce qu'on appelle agnostique de la technologie physique. Alors ça, ça marche jusqu'à un certain point.
Oui, c'est réaliste ou pas?
Ça dépend à quel niveau d'abstraction on se met, mais en pratique, au bout d'un moment, il ne faut plus être agnostique. Ou on pourra l'être à nouveau dans très longtemps. Voilà. Donc non, c'est plutôt une chance. C'est plutôt une chance, mais il faut parier sur son qubit préféré.
D'accord. Super. Alors maintenant, on va passer, je t'ai déjà plusieurs fois dérivé parce que tu avais envie d'en parler, on va passer aux algorithmes, parce que c'est vraiment ça ton sujet. Une question un peu de néophyte, comment on fait pour tester ces algorithmes si les machines n'existent pas encore? Comment on peut y arriver?
Alors les machines existent, on peut en tester certains, mais on peut aussi faire autre chose, à savoir on peut simuler ces algorithmes. On peut prendre un ordinateur donc classique et faire semblant, le faire se comporter comme un ordinateur quantique. Alors on peut faire ça, mais seulement jusqu'à, on va dire, une simulation d'ordinateur quantique à 10 qubits, 20 qubits, peut-être 30, 40, ça va commencer à devenir très très compliqué. Donc voilà, il faut soit un vrai ordinateur quantique, soit un simulateur d'ordinateur quantique, soit des preuves théoriques. Et pour l'instant, on a surtout des preuves théoriques.
Et donc ça, c'est ton travail consiste, j'essaie de comprendre, à surtout faire des preuves théoriques sur ces algorithmes, même si tu peux de temps en temps les essayer avec des petites dimensions.
Exactement. Et je veux juste rajouter quelque chose, une intuition que j'ai pas donnée au début, mais qui est l'intuition qu'on entend la plupart du temps de comment ça marche un algorithme sur ordinateur quantique. On dit souvent que c'est un petit peu essayer toutes les solutions en même temps. Ça, c'est quelque chose que vous allez entendre assez souvent. Et c'est assez faux, mais l'intuition est intéressante. Donc, par exemple, j'essaie de donner un exemple très rapide. Si votre problème, c'est de trouver votre nom dans l'annuaire des Français, donc vous avez 70 millions de possibilités, comment vous faites? C'est quoi l'algorithme que vous essayez? Vous allez un peu regarder tous les noms. Donc, si au lieu d'avoir 70 millions de Français, j'ai N Français... Non, je ne vais pas rentrer dans les maths. Donc, disons qu'il y a 70 millions de Français. En gros, ça va prendre une durée 70 millions à peu près, ou 70 millions sur deux, mais c'est à peu près... un peu du même ordre. Avec l'ordinateur quantique, on pourrait avoir ces 0 et ces 1 dont je parlais. Des combinaisons de 0 et de 1 vont représenter un prénom et un nom de famille, on va dire. Donc 0101001, c'est Jonas Landman. Mais 1011111, c'est Serge Habitboul. Et donc, dans l'ordinateur quantique, les petits atomes, les petits objets, les qubits qui représentent ces 0 et ces 1, peuvent être dans tous les états à la fois. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être à la fois dans l'état Jonas Landman et dans l'état Serge Habitboul. Donc finalement, sur ces atomes, qui sont dans tous les états à la fois, je peux demander une seule fois, es-tu Jonas Landman? Et donc, maintenant, la réponse, ça va être une superposition de toutes les réponses. Il va y avoir à la fois Jonas, c'est-à-dire oui, pour moi, et à la fois il y aura non. Et ça va vivre en même temps. Ça, on a envie de se dire, mais dans ce cas-là, il suffit de demander une seule fois et ça marche du premier coup, c'est bon. Le problème, et là, il faut revenir un peu au fondement de la physique quantique. Une seconde, et c'est pas très compliqué, peut-être que les gens ont déjà entendu parler du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée qui n'existe pas, à savoir, si un photon peut être dans deux états, est-ce qu'un chat peut être dans deux états? Et pour dramatiser la situation, est-ce qu'il peut être mort et vivant à la fois? Alors, disons que oui. Eh bien, ce chat, on le met dans une boîte. Et en fait, l'état quantique, c'est-à-dire la superposition quantique, à savoir le chat est vivant et mort à la fois, ou le qubit est dans l'état 0 et 1 à la fois, ça n'existe, cette superposition, tant qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle une observation, une mesure. Donc si j'ouvre la boîte, je vais voir le chat soit mort, soit vivant. Je ne verrai jamais cette chose un peu duel ou en superposition. Pour revenir aux algorithmes, si j'arrive à avoir toutes les réponses d'un coup en superposition, donc c'est-à-dire non pour quasiment les 70 millions de Français et oui pour moi, si j'ouvre l'ordinateur quantique, je lui demande c'est quoi la réponse, il va me donner un résultat au hasard. Donc il va me donner non la plupart du temps. Ça, c'est juste pour donner l'intuition de pourquoi c'est un peu plus compliqué que juste dire je fais tous les calculs en même temps. Le problème, c'est à la fin comment je récupère la réponse, comment je passe du monde quantique au monde classique, parce que nous, jusqu'à preuve du contraire, on est dans le monde classique.
Et donc, en essayant d'avoir un peu plus d'intuition, parce que c'est compliqué quand on ne connaît pas, moi je connais les algorithmes classiques, pas du tout les algorithmes quantiques, ça a l'air d'être une réflexion, un raisonnement totalement différent. De réaliser un problème avec un algorithme quantique n'a rien à voir avec un algorithme classique.
Oui, voilà, en fait, ce qu'il y a de commun, c'est le problème. C'est peut-être... parfois, cette idée d'étape, on veut résoudre un algorithme en plusieurs étapes, mais oui, fondamentalement, c'est très différent. On parle de circuit quantique, de porte logique quantique, et on, voilà, c'est clair que c'est pas si facile de se mettre à comprendre un algorithme quantique.
Bon, merci. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous parles un petit peu de ta recherche maintenant, parce que je la trouve passionnante. J'avais commencé à essayer d'expliquer ce que j'avais compris, mais je préfère que tu expliques toi-même aux auditeurs, avec tes mots, sur quoi tu travailles et quel est ton projet de recherche actuel.
Très bien. Alors en fait, j'étudiais, moi, avant de m'intéresser à l'ordinateur quantique, j'étudiais souvent le machine learning, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique en français, ou l'intelligence artificielle parfois, quand on peut discuter avec, j'imagine. Moi, j'appelle ça l'apprentissage automatique. L'idée, c'est une suite d'algorithmes où on va donner plein d'exemples. Et l'idée, c'est que l'algorithme, au bout d'un moment, apprenne à reproduire ces exemples, on va dire, pour la faire très, très succinctement. Les mathématiques derrière ces algorithmes, j'ai toujours trouvé très intéressant, très beau. Et le champ mathématique principal qu'on utilise là-dedans, ce qu'on appelle l'algèbre linéaire. Voilà, je ne vais pas aller plus dans les détails, mais c'est le monde merveilleux des vecteurs et des matrices et des dimensions de taille n. Bref, il s'avère que la physique quantique, qui est un autre sujet que j'avais étudié parce que j'étais passionné de science et que je voulais comprendre ce grand pan de la science du XXe siècle, il s'avère que la physique quantique, c'est aussi partout de l'algèbre linéaire, des vecteurs et des matrices. Donc, il y a un peu un socle commun mathématique inattendu entre la physique quantique, d'une part, et l'apprentissage automatique, d'autre part. Ce qui donne l'occasion de se dire, mais tiens, on peut essayer de faire des algorithmes sur ordinateur quantique pour résoudre les problèmes d'apprentissage automatique. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait ça. Je me suis trouvé là-dedans. En 2017, il y avait très peu de gens qui travaillaient dessus, mais quand même certains. Et ça, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de monde sur ce sujet.
Donc ça, c'était résoudre avec de l'informatique quantique, avec un calculateur quantique, des problèmes d'intelligence artificielle.
C'est ça.
Mais est-ce que j'avais cru comprendre que dans ton projet actuel, c'était presque faire l'inverse, c'est-à-dire simuler du calcul quantique avec des réseaux neuronaux.
Oui, alors en fait, donc les deux sujets m'intéressent individuellement, on va dire l'informatique quantique et l'apprentissage automatique. Moi, quand il y a les deux en même temps, ça me passionne. Effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à me demander, est-ce qu'on peut faire l'apprentissage automatique sur ces ordinateurs bizarres? Et là, en ce moment, je me demande autre chose, à savoir, est-ce que finalement, l'apprentissage automatique, les réseaux de neurones, ils ne seraient pas finalement très forts en physique quantique, tout seul, sans besoin d'un ordinateur quantique? Et ça, c'est une grande question qu'on peut élargir d'ailleurs. Est-ce que les réseaux de neurones, donc c'est cette structure algorithmique qui est derrière toutes les dernières avancées de ChatGPT, à la génération de vidéos, à tout plein de choses, ces réseaux de neurones, ils font plein de choses, est-ce qu'ils peuvent apprendre, avec de très grands guillemets, la physique quantique? pourrait se demander en élargissant, est-ce qu'ils peuvent apprendre la mécanique des fluides, plus globalement la physique en fait. Donc ça, c'est intéressant. Sachant que la physique quantique, c'est très difficile parce que, comme j'ai dit, les états quantiques, c'est des choses qui sont dans... les systèmes quantiques, pardon, c'est des choses qui sont en plein d'états à la fois. Et on parle d'un nombre exponentiel d'états à la fois. Ça veut dire beaucoup, beaucoup trop. Alors, est-ce qu'un réseau de neurones peut représenter ces systèmes, ces états exponentiels? C'est une question.
Il n'y a pas d'impossibilité mathématique à ce qu'il le fasse?
Alors, si, il y a clairement une impossibilité mathématique, mais on se demande si, en pratique, les systèmes quantiques qu'il y a, on va dire, dans la nature, par exemple, si je prends une molécule d'une plante, une molécule d'un médicament, le matériau qui compose un panneau solaire. Si je veux trouver les propriétés de ces choses-là, je dois décrire la physique quantique, je dois utiliser les lois de la physique quantique pour les décrire. Maintenant, c'est très difficile à faire avec un ordinateur classique. L'ordinateur quantique pourrait aider. Est-ce que les réseaux de neurones, finalement, ne pourraient pas aussi fonctionner? Donc ça, c'est des questions de recherche très actuelles.
Et voilà. C'est des questions encore ouvertes.
Très ouvertes. Alors, ça fait un petit peu des communautés dans la recherche. Il y a ceux qui disent oui, les réseaux de neurones vont tout résoudre. Exemple, le PDG de l'entreprise DeepMind, donc, qui est à Google, et qui a eu le prix Nobel de chimie pour AlphaFold. Et il dit dans sa conférence de prix Nobel, « Je pense que les réseaux de neurones peuvent apprendre la physique quantique, pas besoin d'ordinateur quantique. » Et d'autres conjectures assez rocambolesques. Et il y en a d'autres qui disent non, il y a besoin d'ordinateur quantique. Et il y a ceux qui mangent des pop-corn et qui regardent la bagarre comme moi.
Bon, on va attendre le résultat. Tu nous le diras, tu reviendras peut-être nous en parler un jour. Une thèse dans ce domaine-là, ça doit être hyper compliqué parce que tu as besoin de compétences en maths, de besoin de compétences en physique quantique, tu as besoin de compétences en informatique. Comment ça fonctionne une thèse dans ce domaine?
Comme dans tout domaine, il faut passer un peu de temps pour comprendre ce qui a été fait auparavant, ce qui est en train d'être fait en ce moment. Il faut beaucoup travailler, lire et participer à des conférences pour se demander, tiens, ici, sur ce domaine, sur cet article, il y a peut-être une question que je me pose, qui n'a pas encore été posée, et je vais essayer d'y répondre. C'est vraiment, on apprend en thèse à se poser des questions une fois qu'on a compris le domaine. Et si on réussit à y répondre, eh ben, on peut commencer à écrire un article, à le présenter à la communauté scientifique dans le monde entier, voir si ça suscite de l'intérêt. Donc c'est ça. Mais je ne pense pas que ce soit spécialement plus difficile en informatique quantique qu'en biologie neuronale ou je ne sais quoi.
Mais le fait que ce soit pluridisciplinaire, que des fois, bah, dans la question qui t'est posée, il te manque une technique.
Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre, il faut s'entourer de plein de gens surtout.
C'est l'heure de conclure. Merci Jonas pour ce partage de tes connaissances, de tes expertises, de tes passions. Ça a été super sympa de vivre ça avec toi, je ne sais pas pour nos auditeurs. Mais pour moi, cette idée de calcul quantique, si elle est restée aussi mystérieuse, est devenue un peu plus concrète quand même. Trop merci Jonas.
Merci à toi.
Merci à vous chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à utiliser votre grand pouvoir, liker et partager, cela stimule l'algorithme pour nous proposer à d'autres. Et surtout, laissez-nous vos commentaires et impressions sur Apple Podcasts, Spotify ou LinkedIn, car cela nous fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. À bientôt.